Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron au micro. Avec moi, j'ai la chance d'avoir un nouvel invité qui s'appelle Youssef Bouya. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Racine Franco, on va parler de sa culture puisque Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise notamment à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone. Et ensemble, on va parler de leur région ou de leur pays d'origine et de leur culture qui leur est propre. Et surtout de comment ils arrivent à vivre leur francophonie en étant ici à Toronto. Avec moi, comme je vous disais, j'ai Youssef Bouya. Comment ça va, Youssef?
Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci. Et toi?
Moi, ça va super. Je suis très contente de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on va parler de toi, donc de ton métissage, parce que toi, tu es né en France, mais tu es d'originaire, grâce à tes parents, du Maroc. Donc, on va pouvoir parler un petit peu du Maroc. Le Maroc, il est cher à mon cœur en plus, donc c'est super, je suis très contente. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Youssef, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Bien sûr, je m'appelle Youssef. Donc, je suis, comme l'a dit Nathalie, français d'origine marocaine. On va dire que je suis nouvel arrivant ici. Ça fait à peu près un an et demi qu'on est installé au Canada. Et donc, on est en pleine phase d'intégration, on va dire. Et ça se passe bien jusqu'à présent. Et on est très ravis d'être dans cette ville multiculturelle qui est Toronto.
Justement, donc tu viens d'arriver il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi dans ton sac, dans tes petites valises, peu importe le contenant que tu avais en arrivant, de ta culture? Parce que toi, ta culture, elle est riche. Donc, tu es né en France, tu es des parents marocains, tu as vécu à pas mal d'endroits différents en Europe. Et en plus, toi, en déménageant au Canada, tu venais d'Allemagne.
C'est exact.
Bref, un vrai melting pot, c'est une pub Benetton à lui tout seul, Youssef.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as ramené de ta culture, du coup?
On va dire, j'ai essayé de ramener le meilleur des cultures que j'ai pu rencontrer lors de mes précédents passages dans les pays dans lesquels j'ai vécu. Je dirais, on va dire, mon caractère. Hein, c'est la principale chose que j'ai pu ramener ici avec moi. Et quel est ce caractère? C'est ce caractère d'ouverture d'esprit, d'aller vers les gens. En tant que nouvel arrivant, on est quasiment obligé d'aller vers les gens, de se faire connaître et aussi d'essayer de comprendre cette nouvelle culture qui s'offre à nous ici au Canada. Donc, on va dire, c'est mon caractère. Et d'un point de vue, on va dire, professionnel aussi, parce qu'il faut bien se nourrir.
Ouais, c'est clair, il y a des factures à payer, puis on sait qu'au Canada, ça coûte cher les factures.
L'inflation est passée par là également. Donc aussi apporter quelques méthodes de travail ou des visions de travail que n'ont pas forcément les Nord-Américains. Donc apporter cette culture européenne de travail que j'ai pu ramener dans mes bagages. Donc voilà, on va dire, ce sont les deux gros points que j'ai pu ramener ici. Donc ma joie de vivre, mon caractère et aussi mon professionnalisme.
Waouh, c'est pas mal déjà, ça fait quand même pas mal de trucs.
Ouais, les choses, oui.
Et de quoi t'es le plus nostalgique en arrivant ici? Forcément, on est heureux parce que, comme on le disait nous en préparant cette émission, c'est un choix de venir au Canada. On a la chance, grâce à Dieu, de ne pas fuir un pays en guerre ou quelque chose. Mais du coup, il y a toujours des petits trucs, quand bien même on a fait le choix de venir, qui font que, je suis un peu nostalgique.
Oui.
Toi, ce serait quoi?
Moi, la première chose pour laquelle je serais nostalgique, ce serait, on va dire, la mobilité, le manque d'infrastructures de transport, on va dire. En Europe, on a la chance de prendre un train et en quelques heures, on est dans un autre pays.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, ça nous permet vraiment de changer d'air, de voir une autre culture qui est totalement différente. Hein, j'ai vécu presque 15 ans en Allemagne. Lorsque je traversais la frontière avec la France n'a rien à voir avec l'Allemagne et vice-versa. Donc, c'est ce qui me manque un peu ici, c'est ce côté, on va dire, infrastructure de transport, avoir un meilleur réseau de métro, avoir un meilleur réseau de train, pouvoir voyager en train, on va dire, à l'européenne. C'est ce qui me manque un peu ici. Et les voyages en avion, premièrement, c'est pas vraiment écologique.
Et puis c'est pas donné.
Et deuxièmement, c'est cher. Donc, ayant une famille, c'est compliqué de payer à chaque fois 5 billets d'avion. Alors qu'en Europe, on avait l'habitude de prendre 5 billets de train qui étaient beaucoup plus abordables et écologiques par rapport à ici. Donc, c'est ce qui me manque le plus, on va dire.
C'est marrant parce que tu vois, Youssef, d'habitude à cette question, souvent les gens ils me disent bah, la famille et la nourriture.
Oui.
Et le transport, la mobilité, c'est la première fois, mais je te rejoins tellement et je suis d'accord avec toi que, bah, par exemple, juste pour faire des voyages au travers du pays, admettons, là on est à Toronto, on veut aller à Montréal, et bah, si on veut prendre le train, ça prend le même temps que si tu vas en voiture. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir des réseaux ferrés.
Un TGV,
voilà,
par exemple.
C'est ça, oui. On fait des milliers de kilomètres en peu de temps, au final, on traverse des pays. Là, ouais, c'est un peu plus lent. Ouais,
c'est un peu plus lent. Et puis, je te rejoins, bien sûr, la famille nous manque et la nourriture nous manque, mais on était déjà préparé à cela. C'est quelque chose qu'on avait déjà intégré avant.
Puis vous aviez déjà eu l'expérience.
Et voilà, ouais. Exactement. Donc, ayant déjà l'expérience d'une première expatriation, ce sont des choses qui nous manquent moins, on va dire.
Ouais, ça vous saute moins aux yeux, en fait.
Exact.
Vous aviez déjà l'habitude. Comment se passe la communauté ici pour vous? Enfin, comment vous la voyez, la communauté francophone ici? Est-ce que vous avez eu l'occasion de rapidement connecter avec des gens où c'est un petit peu difficile au début? Vous êtes en famille, donc des fois, il y a la chance de, par les enfants, d'avoir les copains d'école qui bah, font qu'après, t'es amie avec les parents des
exact.
Enfants. Comment ça s'est passé un petit peu la connexion avec la communauté francophone?
Alors, c'est fait alors pour moi à travers le sport. Alors, dès que je suis arrivé ici, je suis un grand fan de football,
ouais.
A.K.A. soccer.
Ouais.
Et donc, j'ai cherché si je pouvais intégrer un club de foot ou une organisation de foot. Et j'ai eu la chance de tomber donc, dans un petit groupe, on va dire WhatsApp, qui organise donc, des matchs de foot tous les dimanches matins, où j'ai pu rencontrer non seulement des francophones, mais aussi d'autres communautés, donc des anglophones également, venant un peu partout aussi du monde. Et donc c'était la première étape pour rencontrer des gens ici.
C'est souvent fédérateur le foot, hein. Enfin le sport,
le sport
de manière
en général.
Ouais.
Le sport en général, il est assez fédérateur. On est venu aussi dans une période où il n'y avait pas l'école. On est arrivé en juillet 2022, donc les écoles étaient fermées, donc il fallait donc
faire des amis
par soi-même avant d'avoir des amis avec les parents. Mais voilà, c'était par le sport et ensuite à travers le travail évidemment. Même si c'est un peu plus compliqué à travers le travail, car c'est ici une autre mentalité par rapport à la France ou à l'Allemagne. C'est qu'on est vraiment collègues de bureau et non pas forcément amis. Donc, les gens ne vont pas forcément se retrouver après le travail pour aller boire un verre. Donc, c'était l'une des grandes différences que j'ai rencontrées par rapport à l'Europe.
C'est marrant que tu soulignes ça parce qu'effectivement, c'est vrai que en Europe, de manière générale, c'est vrai qu'on a cette tendance un petit peu à, une fois que ça match, pour parler du bon français, une fois qu'on trouve des bonnes affinités avec des collègues de travail, on a tendance à vite les intégrer dans nos groupes d'amis respectifs. On peut aller boire un verre, on peut aller faire du sport
Absolument.
Ensemble, on peut faire des sorties. Ah ben, y a un concert, je sais que t'aimes bien, machin, ben, vas-y, on va y aller ensemble. Et c'est vrai qu'ici, avant que ça se fasse, je trouve que ça prend vraiment du temps.
Ouais.
Parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, entre guillemets. Les collègues de boulot, c'est les collègues de boulot. Et puis, moi, je me rappelle même, pour raconter encore une fois ma vie, mais avoir travaillé en banque et à recevoir un papier de tout ce que tu n'avais pas le droit de faire et tu n'avais pas le droit d'avoir des relations amoureuses avec tes collègues de travail. Alors qu'on ne va pas se mentir, c'est souvent sur ton lieu de travail que tu rencontres ton partenaire de vie parce que bah, tu passes 8 heures par jour au travail, 5 jours par semaine. Et ici, c'était bien stipulé noir sur blanc. Bon, toi, tu es arrivé en famille, donc la question ne se posait pas sur tes collègues de travail, mais effectivement, c'est un truc à prendre en considération. Ça s'est passé comment l'intégration ici en Ontario? Parce qu'on en parlait un petit peu. Donc toi, avec ta famille, vous êtes venu d'Allemagne, donc il y avait déjà eu ce mouvement pour vivre en Allemagne. Mais comment ça s'est passé l'intégration ici? Est-ce qu'il y a eu des petits trucs où tu t'es dit « Ah ouais, au final, ça va peut-être un peu plus compliqué que prévu » ou au contraire « Ah ouais, bah, en fait, ça passe comme une lettre à la poste ».
Pour juste une petite précision avant, donc pour l'Allemagne, c'est moi qui suis allé en Allemagne et ma femme est allemande et
okay.
mes enfants sont nés et ont grandi en Allemagne. Donc,
donc au final, la famille n'a jamais bougé
d'Allemagne. N'a jamais
bougé,
à part ma femme qui a eu quelques expériences à l'étranger en tant que fille au pair ou a travaillé aussi à Paris. Mais jusqu'à présent, c'était moi ou ma femme qui avons bougé et non pas nos enfants. Donc pour
ouais.
nous, c'était vraiment les enfants. On va dire leur vraie première expérience à l'étranger. Ça s'est fait très bien parce qu'on les avait déjà préparés psychologiquement avant de partir. Donc, on a beaucoup discuté sur notre projet d'expatriation.
Et puis, vous êtes arrivé avec une résidence permanente aussi,
et on
ce qui change
avec
un petit peu
résidence permanente.
Tout.
Donc, on va dire à une vision long terme. Donc, on savait qu'on allait venir ici. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir, si on repart. Donc, voilà, c'est vraiment un cadre idéal et un cadre serein d'avoir une résidence permanente parce qu'on n'a pas, entre guillemets, de limite ou date butoir pour revenir.
L'épée d'Amoclès.
Et donc, on leur a préparé tout en leur disant que vous allez avoir de nouveaux amis, on aura une nouvelle maison, on aura un nouveau quartier, vous allez avoir une nouvelle école et vous allez voir, il y aura d'autres cultures qu'on n'a pas forcément en Europe. Et je pense forcément à Halloween. Hein, qu'on ne fête pas vraiment en Europe comme ici. Donc, alors, ça les a excités. Ils ont été curieux de savoir quel sera ce nouveau monde pour eux. Hein, dans les yeux d'un enfant, c'est vraiment un nouveau monde. Pas comme nous, les adultes, où on est préparé parce qu'on a déjà vécu à l'étranger. Mais pour eux, c'était vraiment, en anglais, un big jump, le grand saut vers l'inconnu. Et ça s'est super bien passé. Donc, au tout départ, on est arrivé l'été, la meilleure saison ici
à Toronto. La meilleure saison, on va pas se mentir. Hein.
Donc, on a profité de toutes les installations que la ville propose à l'extérieur. Donc, tout ce qui est piscine ouverte, tout ce qui est splash pad, donc tout ce qui est parc.
Ouais, c'est vrai que la ville, elle offre pas mal de trucs. L'été, quand même super accueillant. Tu as l'impression que tout est gratuit aussi.
Exactement.
Et après, l'hiver arrive et tu dois payer tout plein de trucs.
Oui, voilà. Donc, c'est le contre-coup de l'hypercapitalisme ici, en Amérique du Nord. Donc, l'été, pas mal de choses gratuites. Et l'hiver, il faut un peu mettre la main à la poche. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire.
Et c'était quoi les principaux défis auxquels vous avez été confrontés ? Que ce soit toi personnellement ou d'un point de vue familial.
Bien sûr. Alors pour moi personnellement, c'est que je suis arrivé sans travail. C'est-à-dire que j'ai démissionné de mon poste en Allemagne pour venir vraiment ici à l'aventure.
Donc, contrairement à ta femme qui, elle, est arrivée avec un poste qu'elle a fait transférer en fait.
Exact. Elle a été transférée donc, parce qu'ils avaient une entité ici au Canada. Donc il n'y avait pas de problème pour avoir un contrat local. Alors que moi, donc, je travaille aussi, je travaille pour une banque et je travaille toujours en banque. Pour moi, la banque pour laquelle je travaillais en Allemagne n'avait pas de bureau ici au Canada, donc impossible de faire un
transfert. Ouais.
Exactement. Donc pour moi, le plus gros challenge, c'était de trouver un emploi, on va dire, dans les meilleurs délais.
Et puis dans la même industrie, si possible.
Dans la même industrie et, si possible, au même niveau. Ce qui est compliqué lorsqu'on n'a pas cette fameuse expérience canadienne. Donc,
On est tous traumatisés par le terme.
On est traumatisés, je le suis toujours. Parce qu'on laisse quand même, de notre part, on laisse quand même une vie confortable en Allemagne. J'avais un poste à responsabilité.
Et puis le salaire qui va
avec.
Mais
voilà, donc vraiment une vie assez confortable, une zone de confort, comme on dit. Et on arrive ici donc, pour avoir cette nouvelle expérience, ce nouveau défi de la vie. On part un peu à zéro, hein, surtout pour moi. Et lorsque je me suis heurté à cette expérience canadienne, ça fait quand même un peu mal parce qu'on ne nous le dit pas. Lorsqu'on se renseigne sur l'expatriation au Canada...
Et pourtant, je sais que vous avez été préparé, que vous êtes venu en avance. Vous avez quand même bien fait le boulot de la préparation. Parce qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu... La gueule enfarinée, excusez-moi d'expression, mais c'est un peu ça. On arrive en se disant c'est l'Eldorado, on va vite trouver parce que tout le monde dit que le Canada c'est super. Et vous avez quand même fait le truc de ok, on va prendre un Airbnb, on va regarder un petit peu comment l'herbe elle est plus verte ou pas. Est-ce que ce quartier il est mieux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais il y a toujours des petites surprises.
Oui, ça fait partie aussi, on va dire, du jeu de l'expatriation. On peut pas entre guillemets tout prévoir. Il faut aussi se rappeler que lorsqu'on visite un pays en tant que touriste, lorsqu'on sait qu'on va rentrer à la maison au bout de 15 jours, 3 semaines. On a une autre vision des choses par rapport à lorsqu'on y vit dans ce pays. Donc, on n'a pas cette routine lorsqu'on est un touriste. Hein, on explore, on visite.
Puis on ne se pose pas forcément les mêmes questions tout de suite.
Non. Ouais. Non. Alors que lorsqu'on vit ici, on va dire, c'est qu'on se rend compte de la réalité du terrain. Parce qu'on rapporte tout simplement cette routine qu'on a laissée en Europe. Ouais. Et c'est ça pour laquelle nous n'avons pas vraiment, on va dire, on n'était pas vraiment prêts. Donc, de se heurter à la réalité du terrain, à des choses qu'on n'a pas forcément vu qu'on était très bien préparé, lorsqu'on était de passage ici. Donc, il faut vraiment venir ici pour vivre sa propre expérience. Hein. Toute expérience est unique à chacun.
C'est vrai.
Et donc, pour moi, c'était vraiment cette expérience canadienne et retrouver un poste, on va dire, à la hauteur de mes qualifications et aussi à la hauteur de mes prétentions salariales que j'avais en Allemagne. Donc, c'était essayer de ne pas trop perdre des plumes par rapport à ce que j'avais là-bas.
Puis, il y a aussi la différence de quand j'arrive à 18, 19 ans, que même si j'ai eu quelques boulots dans ma vie, entre guillemets, précédente, je n'ai pas tout un bagage qui fait que repartir de zéro, oh, ça me pèse. Là, quand on arrive à un certain âge, on a une famille à nourrir. Ça fait déjà un nombre d'années qu'on bosse, qu'on est dans une industrie. Donc, en fait, qu'on a accumulé certains galons quand même. Oui. Voilà. Repartir à zéro ou repartir dans une autre industrie, sauf si vraiment c'est un choix. Admettons, je ne sais pas, tu as la passion de la pâtisserie et que tu dis, bah, vas-y, la banque, c'était cool. Mais là, nouveau départ, nouvelle vie, je me lance dans la pâtisserie. C'est choisi, c'est différent. Voilà. Là, de se dire, est-ce que je vais devoir repartir à zéro alors que j'étais arrivé à un certain niveau? C'est un peu des fois compliqué à avaler la pilule.
Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que chaque expérience est unique. Hein. Si on vient à l'âge de 20, 25 ans, ou bien si on vient à l'âge de 35 ans, 40 ans, avec une famille, donc ça ne sera pas forcément la même expérience et on sera, entre guillemets, moins en train à faire des choix de reconversion lorsqu'on est un peu plus expérimenté que lorsqu'on vient de juste débuter sa carrière et qu'on est prêt à tout faire, à tout toucher pour trouver sa voie. Alors lorsqu'on a assez d'expérience, accumulé assez d'expérience dans une industrie, on aimerait bien l'utiliser pour le pays parce qu'on vient ici, c'est pour apporter cette main-d'œuvre, apporter ces qualifications, ces expériences pour contribuer, on va dire, au bien-être économique du Canada.
Et du coup, quand tu as commencé à chercher du travail, est-ce que tu t'es dit, Youssef, je vais contacter peut-être des programmes ou des organismes francophones ici ou anglophones peut-être même, mais est-ce que tu as eu recours à des programmes ou à des organismes ici pour justement t'aider? Là, on parlait du travail, donc peut-être pour t'aider dans ta recherche de travail, mais peut-être pour aider dans d'autres plans également.
Alors au départ, non, parce que je ne les connaissais pas, tout simplement. Donc au départ, j'ai plutôt joué, on va dire, sur le réseau. Qui est très important ici. Donc,
le
networking, essayer de se faire connaître, essayer de connaître des gens. Pas forcément dans son industrie, parce que tout le monde ne travaille pas en banque, par exemple. Donc, essayer de vraiment d'avoir, on va dire, un pied dans un réseau afin de trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement t'aider à intégrer. Par la suite, j'ai pris connaissance de différents organismes. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la Société économique de l'Ontario, hein, qui aide pas mal les nouveaux arrivants à trouver, on va dire, des métiers, à essayer de trouver un emploi, à mettre à jour en format canadien leur CV, à leur donner des techniques pour passer les entretiens, parce que passer
un entretien... Il y a un monde ici, entre comment
voilà,
ça se passe,
c'est différent, c'est par ça. Rapport au pays d'origine. Donc, la plupart des gens viennent de cultures, on va dire, francophones, donc les entretiens d'embauche dans ces cultures-là sont différents des entretiens d'embauche ici. Donc, on essaye de nous préparer afin d'être de bons candidats et de maximiser les chances d'obtenir, on va dire, un second round pour le prochain entretien. Donc voilà, j'ai eu recours à ces sociétés ou à ces formations ou à ces instituts, organismes d'aide aux nouveaux arrivants, mais on va dire un peu plus tard dans ma recherche.
Et du coup, tu as réussi à trouver un emploi actuellement, ça y est
ou Oui, j'ai réussi à trouver un emploi, mais on va dire plutôt par le réseau.
Par
l'intermédiaire du réseau. Donc là, on revient encore au fait que le réseau est vraiment important. Mais bien sûr, tous ces organismes d'aide, je dirais que c'est un complément.
Ouais.
Ça permet vraiment d'être à l'écoute du marché, de savoir quel secteur recrute, parce que j'étais aussi prêt à faire une reconversion. Je veux dire, il faut bien se nourrir. Oui, j'étais prêt à faire une reconversion si ça ne marchait pas.
Dans la pâtisserie ou pas?
Peut-être pas, mais, la reconversion pour laquelle je pensais serait donner des cours de langue. J'aurais été prêt à donner des cours de langue français, vu que c'est ma langue maternelle. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre à profit donc, mes connaissances du français pour les jeunes Canadiens ici.
Selon toi, du coup, Youssef, ce serait quoi les défis les plus fréquemment rencontrés par les nouveaux arrivants? Est-ce que ce serait justement le marché du travail? Est-ce que c'est la langue? Parce que toi, tu as vécu pas mal, tu as bourlingué un petit peu à droite à gauche. Donc, du coup, l'anglais, ce n'était pas forcément un problème. Ouais. Mais voilà, selon toi, ce serait quoi les défis principaux que les francophones rencontrent en arrivant?
Bien sûr, il y a la barrière de la langue. Lorsqu'on est en France, notre niveau d'anglais n'est pas vraiment très élevé.
Qui le dis-tu? Moi, je pensais être bilingue et j'ai arrivé, je ne pouvais même pas commander une pizza.
On pense tous être bilingue parce qu'on a regardé telle ou telle série en version originale. On se dit, on comprend. Alors, lorsqu'on vient ici au Canada ou dans un pays anglophone, on se rend compte que finalement, notre niveau d'anglais n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Mais ça, c'est normal. Et puis, de toute façon, on l'améliore au quotidien. Donc, il faut vivre vraiment dans un pays pour apprendre la langue. Je l'ai fait avec l'anglais. J'ai vécu un an aux Pays-Bas et c'est là où j'ai appris l'anglais. Je l'ai fait avec l'allemand, j'ai vécu 15 ans en Allemagne et c'est là où j'ai appris l'allemand. Donc il n'y a pas de recette magique, c'est d'être dans le pays, d'être en immersion totale et de faire des efforts aussi et ne pas être timide. Parce que les gens sont forcément timides de parler, donc ils ont peur de parler, mais vraiment essayer de, voilà, d'ouvrir la bouche et de sortir ces mots-là, même si c'est incorrect. Mais au fil du temps, on va s'améliorer parce que les gens vont nous répondre. Et notre cerveau va dire absorber tout ce qu'ils disent afin de remettre les choses dans le bon ordre.
Donc c'est vrai que l'insécurité linguistique c'est super important au début, c'est un truc qui nous hante un peu tous, voilà. Parce qu'on se dit oh là là, quand je parle, j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi parce que j'ai pas la bonne phrase, la bonne expression, ou je le traduis littéralement de ma langue d'origine, donc ça sort mal. Ouais. C'est vrai que c'est différent l'anglais. En tout cas, quand on l'apprend dans son pays d'origine et celui qu'on utilise au quotidien ici, il y a une petite différence.
Il y a une différence, il y a une différence, mais il faut aussi ne pas se sous-estimer parce que on est, on va dire, c'est pas notre langue maternelle. Donc, on a quand même la capacité de parler notre langue étrangère, ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup d'anglophones. Hein, et je pense notamment aux États-Unis. Donc, ils parlent qu'une seule langue, qui est l'anglais.
Ici et puis, aussi, en plus, en arrivant ici, en parlant français, tu parles quand même au moins une des deux langues officielles du pays.
Exact. Ça, et donc, on a quand même le mérite de parler au moins deux langues, hein, par rapport à beaucoup de Nord-Américains qui ne maîtrisent qu'une seule langue. Donc, il ne faut pas vraiment se sous-estimer. Donc, c'est, on va dire, la principale difficulté en arrivant ici. Pour certains, ça pourrait être la barrière linguistique, qui est pour moi quelque chose de très, très surmontable. Il y a d'autres défis qui sont beaucoup plus complexes, et je pense notamment au logement. Donc, la difficulté de se loger, surtout dans une ville comme Toronto, où les prix, malheureusement, ont explosé ces dernières années. C'est l'offre et la demande, hein, je veux dire, c'est la base de l'économie. Il y a très peu d'offres, beaucoup de demandes, et donc
les prix s'envolent.
Voilà, tout monte en flèche, et c'est vraiment le grand défi pour les nouveaux arrivants, essayer de se loger à des prix convenables et aussi, on va dire, pas être à une heure de transport du centre-ville de Toronto. Donc voilà, c'est l'un des grands défis pour lequel je pense actuellement.
Et si tu devais, Youssef, donner des conseils justement aux nouveaux arrivants francophones, tu leur dirais quoi? Parce qu'au final, comme tu disais, même en étant bien préparé, toi, tu as quand même été confronté à des trucs où « Ah ouais, bah ça, je le savais pas, tu vois. » Du coup, si maintenant, grâce à ton expérience, ça fait quand même déjà un an et demi que tu es là, tu as eu l'expérience aussi de toi voyager dans d'autres pays, il y a peut-être des points communs à tout ça. Quels seraient tes conseils, du coup, par rapport à ça?
Je dirais il faut apprendre à être résilient. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsqu'on a un projet d'expatriation, et notamment le Canada, c'est qu'on a des rêves plein la tête. Hein, lorsqu'on voit les belles images de nature qu'on nous vend lors de différents salons pour le Canada. Donc, on se dit que ici, ça sera l'Eldorado. C'est pas forcément le cas. Et je dirais de se préparer à savoir qu'il y aura des difficultés au quotidien, il y aura des difficultés lors de l'installation, et de se dire, je suis là, c'est une expérience, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, donc à moi d'apprendre à être résilient. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est d'être préparé à ce que tout ne soit pas rose. Hein, à se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément marcher tout de suite. C'est qu'une question de temps. Il faut prendre le temps et ne pas repartir à la moindre difficulté. Parce que malheureusement, on voit certains qui rentrent au bout de quelques mois parce qu'ils n'ont pas retrouvé cette zone de confort. Si on a décidé de quitter cette zone de confort, ce n'est pas forcément pour en retrouver une immédiatement. On la retrouvera, mais pas tout de suite. Donc voilà, être préparé, être résilient et surtout être patient.
Ouais, c'est bien dit, je trouve. C'est exactement ça. C'est on part, on se dit qu'on quitte notre zone de confort pour trouver, entre guillemets, un Eldorado. Mais un Eldorado, c'est dans les dessins animés.
Ça n'existe plus.
Ouais, c'est dans les dessins animés. Ça n'existe plus, ça. C'était dans les années à l'ancienne, ça. Mais du coup, c'est bien aussi de... Parce que souvent, des fois, quand tu écoutes des podcasts, des émissions sur immigrer dans un autre pays, on te vend que le côté qui brille, c'est cool. Justement, moi, je trouve que c'est important de rappeler qu'il y a des petites péripéties qui vont forcément vous arriver. Il y a des embûches sur votre chemin, mais c'est ce qui va vous rendre plus fort. C'est ce qui va vous prouver à vous-même que vous êtes capable de plein de choses aussi, que ce soit seul ou en famille, comme dans ton cas à toi. Je trouve que ça, quand on est plusieurs, ça soude. Et puis, quand on est seul, ça prouve que Ah ouais, bah tu vois, là, j'aurais pas donné cher de ma peau parce que vu la difficulté, c'était compliqué. Et en fait, je m'en suis sortie comme une chef ou comme un chef. Et au final, bah voilà, j'en suis là,
Oui,
quoi.
et puis ça permet de se développer personnellement. Donc son développement va être vraiment d'une manière exponentielle par rapport à si on était resté en France. Donc en France, ça aurait été la même chose chaque jour, donc une certaine routine. Alors qu'ici, on rencontre d'autres choses nouvelles qu'on n'a pas forcément vécues en France. Et donc l'expérience personnelle et son développement personnel va vraiment croître d'une manière rapide par rapport à la France.
Justement, toi, si on parle de toutes ces racines, de toutes ces cultures, à quel point tu trouves que c'est important, justement? Parce que nous, on en parlait encore une fois hors antenne. Quand tu parles français, en général, ici, les gens vont tendance à avoir rapidement le lien « Ah, tu viens de France » ou « Ah, tu viens du Québec ». On oublie à quel point la francophonie, elle est large, elle est variée, elle vient surtout de partout dans le monde. Est-ce que justement, toi, tu trouves que c'est important de rappeler que cette francophonie, d'une, elle est diverse, et de deux, est-ce que grâce à cette mise en avant de la francophonie diverse, ça peut aussi mettre dans la tête d'autres choses, implanter d'autres graines dans la tête des gens, et justement faire en sorte qu'on lutte un peu plus contre les discriminations?
Oui, bien sûr. Alors moi, généralement, lorsque je me présente, lorsque je rencontre de nouvelles personnes, je leur dis bien sûr que je suis français et j'insiste aussi sur le fait que je suis d'origine marocaine. Et parfois, certains me demandent quelle langue on parle au Maroc. Donc,
Et même des fois, où est-ce que c'est tel pays? Parce que tout le monde ne sait pas forcément
exact.
placer sur une carte certains
Exact.
pays, ouais.
Donc en Afrique du Nord, et je leur dis, donc il y a l'arabe qui est parlé, donc la plupart le savent, mais je leur dis aussi que le français est parlé au Maroc. Et certains sont surpris. Donc certains ne savent pas que le français est parlé donc, en Afrique du Nord. Et lorsque je leur explique aussi ce que je faisais avant de venir ici au Canada, donc moi, j'étais en charge de l'Afrique du Nord. Donc je couvrais l'Afrique du Nord dans la banque pour laquelle je travaillais. Et pourquoi je couvrais l'Afrique du Nord? Parce que je parlais français. Donc dans ma banque en Allemagne, donc ils m'avaient affecté à l'Afrique du Nord du fait du français qui est ma langue maternelle. Donc c'était un avantage comparatif par rapport, on va dire, à d'autres banques concurrentes. Donc essayer vraiment de dire qu'il n'y a pas que le français qui est parlé en France, mais aussi dans d'autres pays en Afrique, et là en l'occurrence l'Afrique du Nord.
Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, Youssef. Ça va être plutôt une partie quiz. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle un peu plus de tes origines marocaines, pour le coup. Alors, je voudrais que tu réfléchisses pas trop et
D'accord.
que quand je te dis un truc, tu essayes de me donner le truc le plus
Spontané.
spontané possible. Ouais, c'est ça. Alors, si je te disais, quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Maroc?
Waouh.
Ça peut être de la génération de tes parents, si jamais les références que tu as de films, c'est bien ce que tu as vu avec eux, par exemple.
J'irais Jamel Debbouze, qui est d'origine marocaine.
Ouais.
Donc, même s'il est, il est comme moi, il est né en France, il a grandi en France, mais il est très attaché à ses origines marocaines. Et j'irais Jamel Debbouze.
Ok, ouais, ça marche. J'avais Gad Elmaleh aussi en
Ah
tête. Ouais.
oui, Gad Elmaleh, oui.
Qui, lui, d'ailleurs, a fait un passage par le Canada, lui.
Oui,
Il a
mais
fait...
malheureusement pas à Toronto.
Non, non,
C'est
plutôt du côté de
dommage.
Montréal, là-bas,
Exact.
là. Chanteuse ou chanteur, pareil, le plus connu, le plus emblématique.
Je dirais Saad Lajed, mais il est assez récent. Donc c'est de la pop marocaine. Et
Ok.
donc c'est assez récent. Donc je pense pas qu'il soit très très connu.
Ouais, mais ça
Ouais.
passe, et puis même ça donne un peu de grain à moudre pour les
Ouais.
gens qui ont envie d'écouter de nouveaux trucs, donc ça passe, nickel. Un film culte, tu dirais quoi?
Un film culte marocain. Waouh.
Un film culte marocain ou qui parle du Maroc, ça passe aussi.
Mais je dirais, il y a pas mal de productions qui sont tournées au Maroc, dont Astérix et Obélix, qui a
Ouais.
été tourné dans le sud du Maroc à Ouarzazate. Donc voilà, Mission Cléopâtre, par exemple, ça a été tourné là-bas. Donc c'est pas vraiment un film marocain, mais on va dire qu'on utilise beaucoup le décor et les scènes du sud marocain pour tourner pas mal de films.
Ouais, c'est vrai que les décors sont grandioses.
Sont
D'ailleurs, ce
magnifiques,
film,
oui.
il a été remasterisé en 4K
Oui.
récemment et on peut voir encore plus à l'étendue des déserts et tout ça. C'est
Exact.
vraiment, vraiment magnifique. Un plat typique, tu dirais quoi?
Bah, sans hésitation, le couscous.
Ouais, et c'est quoi la singularité justement du couscous marocain? Parce que on sait, le couscous, c'est un peu emblématique, je dirais, de tout le Maghreb, entre guillemets, avec des petites spécificités.
Oui, alors ici, ce serait éventuellement le choix des viandes. Donc, il y a beaucoup de couscous au poulet ou bien au bœuf. Donc, ce seront, on va dire, les deux principales viandes qu'on va retrouver dans le couscous marocain au Maroc.
Ok, et une boisson du coup?
Une boisson, je dirais l'ben. Donc, c'est du lait caillé.
Ah, je sais ce que c'est. Donc, c'est horrible. Moi, je déteste personnellement, voilà. Mais je vois ce que c'est. Vas-y, je te laisse décrire pour les auditeurs.
Donc, c'est du lait caillé qu'on mange aussi avec de la semoule. Hein, donc, ça peut être aussi une sorte de dessert après le couscous. On vous sert de la semoule et on mélange avec du lait caillé et un peu de sucre. Ou beaucoup de sucre.
Ouais, ou beaucoup de sucre, ouais.
Beaucoup de sucre. Donc,
moi, je me rappelle de ce truc. Souvent, c'est dans des bouteilles de lait blanche et verte.
Exact, c'est ça.
Ouais.
Donc, non, c'est délicieux. C'est rafraîchissant. Donc, on boit ça pour se rafraîchir.
Ouais, c'est spécial. Attention.
Il faut aimer le lait caillé.
Voilà, il faut aimer le lait caillé. Si je te dis, je vais bientôt aller au Maroc, Youssef, et j'ai absolument envie de visiter le truc le plus touristique, l'endroit le plus beau. Je ne veux pas passer à côté avant de rentrer. Qu'est-ce que tu me conseillerais de visiter absolument?
C'est une question assez compliquée, mais j'irais Marrakech. Marrakech pour la beauté de la ville, pour la beauté de la place Jemaa el Fna. Donc, c'est une place emblématique. Je dirais que le monde entier connaît cette place-là. Et je dirais, il ne faut pas rater un petit passage sur cette place et de flâner dans cette place-là et de continuer vers le souk et vers les petites ruelles que la vieille ville compte à Marrakech. Donc, une expérience inoubliable pour beaucoup de touristes, Marrakech.
Ok. Le sport le plus connu ou le plus pratiqué au Maroc, ce serait quoi?
Ce serait le football, là, sans hésitation, et notamment après le beau parcours lors du dernier mondial de l'équipe nationale marocaine.
Ouais.
Première équipe africaine à être arrivée en demi-finale. Ça n'a jamais été fait avant. Et donc, forcément, ça augmente encore plus la ferveur populaire auprès de ce sport-là, qui était déjà assez, à un niveau assez élevé. Mais là, donc on voit vraiment qu'il y a de plus en plus d'investissements dans le sport, et notamment le foot. Et notamment le foot féminin.
Ah.
Donc, il y a une équipe nationale marocaine féminine qui a joué récemment le mondial féminin et qui sont arrivés, je pense, en 8e de finale. Donc une première également pour une équipe africaine féminine. Et voilà, donc il y a du développement au niveau footballistique.
Ça, c'est cool par rapport aux femmes, parce que
voilà.
C'est vrai que ça, c'est souvent, le foot, ça a souvent été connoté pendant longtemps, en tout cas dans nos pays à nous, comme un sport masculin. Alors que, bizarrement, en Amérique du Nord, c'est plutôt un sport pratiqué par les filles.
Féminin,
parce
ouais.
que les garçons, ils vont plus faire du foot US où ça se
voilà.
castagne un peu plus. Mais je trouve ça cool que maintenant, dans le reste du monde, entre guillemets, où le foot masculin a déjà, c'est déjà exact. Méga populaire, que maintenant, les femmes ont un peu de lumière. Je pense, tu vois, à cette équipe du Maroc, mais même en France et un peu partout dans le monde, même au Canada. Mmh. Le foot féminin, ça commence à prendre un peu d'ampleur et franchement, ça fait plaisir.
Non, c'est bien,
ouais.
C'est très bien.
Si on disait une expression très populaire au Maroc, c'est-à-dire que si tu l'entends dans la rue, tu dis « Ah ben ça, c'est sûr, ils viennent du Maroc ».
Une expression populaire au Maroc j'irais le fameux « Inch'Allah ».
Ouais.
Donc, bon, après ça, c'est pas typiquement marocain, hein. On va dire, c'est aussi le monde arabe, mais si on entend… ou j'irais « la baisse ». La baisse,
ouais.
Ça veut dire est-ce que ça va, ça va bien. Donc ça, c'est assez marocain. Donc si quelqu'un dit ça dans la rue, la baisse Alik, est-ce que tu vas bien? Je pense que je me retournerai, je dirais ça, c'est un marocain.
Ok. Alors, cette question, j'aime bien la préciser un peu parce que sinon, ça a l'air négatif alors que ce n'est pas du tout le but. Quand je dis un stéréotype sur les gens au Maroc, ça peut être un stéréotype, un cliché, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mm-hmm. Ça peut être quelque chose connu par rapport à la communauté marocaine, en positif, en négatif. C'est toi qui le vois. Mais ce serait quoi?
J'irais la chaleurosité, l'accueil. Donc, il y a une grande tradition au Maroc, c'est d'accueillir les gens et d'être bienveillant. Moi, je le vois aussi auprès de ma propre famille lorsque je leur rendais visite l'été, pendant les étés. Eh bien, ils voulaient absolument que je me sente bien. Pas uniquement en étant bien servi et d'avoir une excellente nourriture pendant mon séjour, mais vraiment le côté bienveillant, le côté chaleureux et l'accueil. Et c'est ce que je dirais caractérise, on va dire, le peuple marocain.
Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Maroc? Et est-ce qu'il y a des vols directs?
Alors, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 6-7 heures. Il y a des vols directs, mais uniquement à partir de Montréal.
Ouais.
Et apparemment, il devrait y avoir une ligne Toronto-Casablanca prévue pour 2025. Donc, c'est l'un des objectifs de la compagnie nationale marocaine, la RAM, de aussi desservir Toronto, car il y a une communauté marocaine ici qui fait un peu de lobbying afin de pouvoir aussi desservir donc l'aéroport de Toronto et non pas uniquement Montréal.
Oui, c'est vrai parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des communautés francophones ici. Oui. Et en général, c'est vrai que la voie un peu vers l'Afrique, en tout cas tout ce qui va être Afrique du Nord, la connexion, c'est souvent Montréal ou alors il faut passer par l'Europe, la France en général. Ouais. C'est quoi la capitale du Maroc ?
Rabat.
Ok. Il y a combien d'heures de différence entre Toronto et le Maroc ?
Il y a moins 5. Moins 5 heures de différence.
Et est-ce qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire dans le Maroc ou...
Il n'y en a qu'un seul. C'est un petit pays par rapport au Canada. Donc, un seul fuseau horaire qui est celui de GMT, en fait.
Alors, petit pays, mais peut-être que sur cette question, il y a quand même peut-être moyen à ce que tu me dises. Il y a. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des dialectes ? Et si oui, il y en a combien de différents au Maroc ?
Alors, oui, c'est peut-être un petit pays de 30 millions d'habitants, mais il y a beaucoup de dialectes, et notamment le dialecte berbère. C'est que l'histoire du Maroc est une histoire riche. Donc avant, on va dire, la conquête par les Arabes de l'Afrique du Nord, donc il y avait un peuple qui existait déjà en Afrique du Nord, et notamment au Maroc, qui est le peuple berbère. Donc on aura différents peuples berbères au nord du Maroc, au sud du Maroc, qui ont leur propre dialecte. Donc c'est une langue totalement différente de l'arabe dialectal qui est parlé au Maroc. D'ailleurs, le gouvernement ainsi que le roi du Maroc ont reconnu d'une manière officielle ce dialecte-là, ce dialecte berbère. Et dans tous les documents officiels et dans tous les bâtiments officiels maintenant, on verra donc le berbère décrit à côté de l'arabe et du français.
Ok. Et du coup, ça fait... Donc, il y a un dialecte officiel.
Voilà.
Et la langue arabe et le français. Donc, tout est tout le temps traduit en trois fois.
En trois fois. Donc, l'arabe littéraire, ouais. Pour tout ce qui est document officiel. Il y a l'arabe dialectal, donc l'arabe qui est parlé entre nous, dans la rue. Et puis, il y a le berbère dans certaines régions du Maroc. Donc, je pense au Rif, le nord, Tinrir, dans le sud. Donc, plusieurs régions qui ont donc un dialecte berbère, qui est aussi maintenant une langue officielle reconnue au Maroc.
Oh, ça, c'est cool. Je ne savais pas, tu vois. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Maroc ?
J'irais donc la djellaba, comme pas mal de pays maghrébins, donc avec forcément donc quelques touches marocaines. Et donc voilà, c'est la djellaba.
Une danse traditionnelle ?
Une danse traditionnelle, j'irais aussi ici la danse berbère. Danse berbère. Donc les berbères ont aussi une danse traditionnelle. Et qui fait aussi le folklore du pays. Donc, il y a pas mal de shows organisés lors d'arrivée de touristes dans des restaurants ou dans des lieux touristiques où donc il y a des berbères aussi bien femmes qu'hommes qui vont effectuer des danses traditionnelles.
Et est-ce que c'est peut-être aussi des danses que tu peux retrouver dans certains mariages, dans certaines célébrations familiales?
Oui, complètement. Donc ça fait partie aussi donc des célébrations donc de mariage, donc de montrer donc. Donc, cette danse traditionnelle berbère.
C'est quoi l'hymne national ? Alors, je ne te demande pas de le chanter, Youssef, tranquille, t'inquiète.
D'accord.
Mais donne-moi le titre et dis-moi un petit peu de quoi ça parle.
Alors, le titre, je ne le connais pas forcément. De quoi ça parle ? Ça parle du peuple marocain. Et je citerai, on va dire, le dernier couplet de cet hymne national.
Qui est en arabe, du coup ?
Qui est en arabe, mais je vais traduire. C'est « Allah al-Watan al-Malik ». Donc Allah, donc ils mettent Dieu en premier, Al-Watan, le peuple, et Al-Malik, le roi, en dernier. Donc on voit vraiment que dans l'hymne national, le Dieu et le peuple sont au-dessus du roi. Donc c'est assez touchant d'entendre ça à la fin de l'hymne national, comme quoi voilà, on met vraiment, donc, on va dire, le divin, le peuple, avant la royauté.
Et c'est quoi les couleurs du drapeau du Maroc ? Est-ce que tu peux nous rappeler comment il est composé ?
Bien sûr. Donc, il est donc un fond rouge marqué d'une étoile à 5 branches vertes au milieu.
Et est-ce que tu sais un petit peu s'il y a une histoire derrière ce... Parce que des fois, on sait, par exemple, le vert, ça va être pour tel truc, le rouge pour tel truc. Est-ce que tu sais ou pas du tout ?
Non, le vert, donc, par déduction, je dirais, c'est du fait de la couleur de l'islam. Donc, c'est l'une de... Voilà, c'est la couleur de l'islam, donc le vert. Le rouge, alors, si je ne dis pas de bêtises, je pense à un rapport avec les morts qui habitaient avant au Maroc. Et d'où la couleur rouge. Mais là, je ne suis pas sûr à 100%.
Pas sûr à 100%, mais ça me va quand même. Avant qu'on se quitte, tu sais, est-ce que tu aurais quelques mots à dire aux auditeurs de Choc FM 105.1, que ce soit par rapport aux gens qui ont envie de venir, aux gens qui sont déjà là, à la communauté marocaine ? c'est ton petit moment, tu peux faire ce que tu veux de ce petit moment. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses.
Mais je dirais, là, le principal conseil que je dirais à tout le monde, c'est d'essayer. C'est d'essayer parce que j'ai cette philosophie en moi et j'essaie de transmettre aussi cette philosophie. C'est, il vaut mieux tenter pour savoir plutôt que de ne pas tenter et de regretter par la suite. Donc, faites les choses, allez de l'avant, essayez. Ça ne coûte rien d'essayer et au pire des cas, ben, on se relève et on continue et on remarche. Donc voilà, donc, la vie est faite d'expériences, bonnes et moins bonnes, mais ça forge l'esprit, ça forge le caractère de quelqu'un. Donc n'hésitez pas à prendre des risques, ça vaut le coup. Hein, et après, on n'en sort que plus fort.
Donc, voilà. Et ben voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser. Merci beaucoup Youssef pour ton temps aujourd'hui. C'était donc Nathalie Salmeron au micro dans Racine Franco. Et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Youssef, à
bientôt.
Merci
Nathalie, au revoir.
Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.